D'abord, vous lire quelques mots d'introduction du Ramban sur la paracha. Le Ramban, il écrit, Nishtepa a paracha azot, cette paracha, elle a été écrite. Le Hodia, faire savoir, qui itzil Kadosh Baruch Hu et avdo, la Kadosh Baruch Hu a sauvé son serviteur, Goalo miad chazak mimenu, et qu'il l'a sauvé de libérer de des mains de quelqu'un qui était beaucoup plus fort que lui. Vaishlach malach, et Hashem a envoyé un malach, veyatsilu, qui l'a sauvé. Ulelamdenu od, c'est aussi pour nous enseigner, Sheu lo batach betzidkato, que Yaakov, donc son serviteur, ne s'est pas appuyé sur le fait qu'il était un tzaddik. Veishtadel ba'atzala bechol yicholto. Il a essayé de se sauver de toutes les façons possibles. Le Rav Volbeh, il a commenté ce Ramban de la manière suivante. Le Ramban dit que Yaakov, comme vous savez, bon, c'est pas un secret, que Yaakov, il va envoyer des cadeaux à Esav. Donc, je vous rappelle, Yaakov est parti de chez Laban, il a poursuivi, etc. Bon, maintenant, le problème Laban est derrière lui. Et il a un problème, son problème c'est Esav. Voilà. Et maintenant il va se confronter à Esav. En fait, ce n'est pas que Esav le cherche. Il semble que dans le texte on voit que en réalité, c'est lui qui est allé chercher Esav. Et les Chachamim vont faire le reproche à Yaakov. Il dit, tu es allé tirer le chien par son oreille, et après tu as peur parce qu'il va te mordre. Esav, il était sur sa trajectoire, et Yaakov s'est détourné de sa trajectoire pour entrer en rapport avec Esav. Si Yaakov était allé son chemin, Esav allait son chemin, ne se serait pas rencontré. Mais Yaakov voulait rencontrer Esav. Il voulait régler les problèmes avec Esav.
Voilà.
Comment est-ce qu'il allait les régler? Il savait pas comment ça allait tourner. Et pour, comme vous savez très bien, pour se préparer à cette rencontre avec Esav, il a fait trois choses. Il a prié. Il a envoyé des cadeaux et il s'est préparé à la guerre. Et ça, c'est le secret, si on peut parler comme ça, de la survie du clan Israël. Sauf que se préparer à la guerre, on ne pouvait pas vraiment. Mais la prière et les cadeaux, c'est ce qu'on a fait. Dans toute l'histoire juive, si vous voulez, on n'a pas arrêté d'envoyer des cadeaux aux peuples chez lesquels on était en exil pour les apaiser. Au point que certains peuples avaient compris le truc et qu'ils prenaient des décrets anti-juifs, pas du tout dans l'intention de les appliquer, mais simplement pour pousser les juifs du monde entier à venir leur apporter des cadeaux, c'est-à-dire de l'argent, pour obtenir que les décrets anti-juifs soient annulés. Il y a eu, très récemment encore, il y a eu en Pologne une loi qui, je crois, interdisait la shrita. Quand j'ai entendu qu'ils ont fait une loi contre la shrita, j'ai dit, ça y est, elle recommence. D'ailleurs, la loi, elle a disparu, je ne sais pas comment. Je présume qu'il y a des juifs qui sont allés et qui ont payé. On a payé pour que la loi disparaisse. Je crois que la loi, elle a été faite seulement pour amener de l'argent. Il n'y avait pas de raison qu'ils interdisent la shrita. Et ça permettait à tout le monde, de toute l'Europe, ils ont venu faire la shrita en Pologne parce que c'était moins cher, parce qu'il y avait, bon, il y avait des bêtes comme les voulaient, etc. C'était pas leur intérêt d'interdire la shrita. Ça ramène de l'argent. Alors le Mashgiach, le Rav Volbe, il a expliqué que la Ishtadlut de Yaakov, c'est ce qu'il appelle une Ishtadlut Bederech HaTeva. C'est-à-dire, c'est une Ishtadlut par les moyens naturels. Les Avot, c'est une grande leçon de que Rav Volbe donnait toujours, je crois qu'elle vient de son maître, Rabbi Rucham, qui disait que les Avot ont toujours fait très attention d'être en phase avec, a priori, les règles de la nature. Et c'est une avoda, c'est une chose assez difficile de toujours tenir compte des règles de la nature. Mais c'est faisable. Parce que si l'homme reconnaît que les règles de la nature sont aussi la volonté d'Hachem, il n'y a pas une nature qui serait une divinité pour soi. D'accord? Que la nature, la teva, nature, en gematria, c'est la même gematria qu'à Elohim. Donc, Elohim, si vous voulez, c'est pas le tétragramme, c'est pas le nom à quatre lettres. C'est Elohim. Elohim, c'est la façon dont Hachem gouverne le monde selon des lois fixes qu'il a mises, qui sont ce qu'on appelle les lois de la nature. Mais ces lois de la nature, elles sont aussi bien que les miracles, la volonté d'Hachem. Il n'y a rien qui se passe qui ne soit pas la volonté d'Hachem. Et par conséquent, si on comprend bien que c'est la volonté d'Hachem, alors a priori, il faut essayer de respecter ces lois de la nature. C'est-à-dire, quand il s'agit de se sauver d'une situation, comme c'était le cas pour Yaakov Avinu, eh bien, a priori, on essaie de se sauver selon les lois de la nature. La prière étant un des modes, c'est les lois de la nature. C'est les lois qu'Hachem nous a données, une loi fixe qui disent qu'on peut prier. Ensuite, l'histoire des cadeaux, c'est bon. Et la guerre, ce sont les, tout ça, c'est la nature. C'est les lois de la nature. Ce que le Ramban dit, c'est que Yaakov ne s'est pas dit, voilà, moi j'ai, comme il le dit, il dit à Esav, il lui dit quand il le rencontre, on ne sait même pas pourquoi il lui dit ça, mais il lui dit, Im Lavan Garti, il lui dit, j'ai habité avec Lavan. Et le mot Garti, qui veut dire j'ai habité, c'est les mêmes lettres que Tariag. Tariag, c'est 613. C'est-à-dire, j'ai habité chez Lavan. Mais j'ai respecté les 613 mitzvot. Qu'est-ce que Sab, il en a à faire que Yaakov, il avait respecté les 613 mitzvot? Bon, alors il y a un message de Yaakov à Esav. Mais pour l'instant, ce qu'il veut lui dire, c'est que comme il a respecté les 613 mitzvot, il pourrait se dire, ok, moi qui ai respecté les 613 mitzvot, Hachem va me protéger. Donc j'ai pas besoin de me préparer. Si je dois rencontrer Esav, Hachem me protège. Pas du tout. Il va pas compter sur le fait qu'Hachem va le protéger parce qu'il a respecté les 613 mitzvot. Il va faire ce que même quelqu'un qui aurait pas respecté les 613 mitzvot peut aussi faire. Essayer de s'en sortir de cette manière-là. Quel est le problème Pourquoi est-ce qu'il dit que c'est une grande avoda, ça veut dire c'est un grand travail? Pour la raison suivante, c'est quand quelqu'un en passe par les lois de la nature, alors quand il réussit à faire quelque chose, immédiatement il va se dire, j'ai bien réussi, c'est mon savoir-faire. C'est mon intelligence qui était à l'œuvre. Et il tombe dans ce qu'on appelle Kochi Veotsem Yadi, dans la faute de penser que c'est lui qui l'a fait. Par contre, si quelqu'un en passe par la Torah, alors il sait très bien que ça ne peut marcher que si Hachem l'aide. Il s'en remet à Hachem. Donc si ça réussit, il sait très bien que c'est Hachem qui a réussi. Alors que s'il a utilisé les lois de la nature, c'est aussi Hachem qui a fait que ça a réussi. Mais lui, il ne le voit pas. Il voit que bon, c'est moi qui ai su comment il fallait planter les carottes de cette manière-là à ce moment-là. C'est pour ça que ça a bien marché. Et c'est mon, je sais quelle mixture il faut faire pour obtenir tel ou tel résultat. Je sais quelles armes il fallait utiliser contre tel et tel ennemi. Et donc il va penser, Kochi Veotsem Yadi, Asuli et Achai Lazé, cette victoire-là, c'est moi qui l'ai faite. Le problème de s'attribuer le mérite de la réussite, c'est tout le problème. C'est toujours le problème. C'est-à-dire, il s'agit, quand les Bnei Israël sortent du désert, où ils ont vécu avec la manne, avec le puits de Myriam, avec la nanée Kavod, ils peuvent pas se raconter des histoires. Ils voient bien qu'ils ont vécu chaque jour parce qu'Hachem leur a donné la manne, qu'il leur a donné l'eau et il les a protégés. Tout à coup, ils arrivent en Eretz Israël. Et en Eretz Israël, il faut faire comme tout le monde. C'est-à-dire, il va falloir labourer, il va falloir semer, il va falloir récolter, il va falloir, engranger et répartir les choses, etc. Et donc, la tentation de se dire, c'est moi qui l'ai fait. Elle est là. Et quant au problème de la guerre, vous voyez bien, vous connaissez bien le problème, n'est-ce pas? Si Chizkiyahou, le royaume de Yehuda, n'est pas devenu Mashiach alors que le pays était entièrement en train d'étudier, tout le monde étudiait, tout ce que vous voulez, c'était parfait et tout, et voilà que le Mashiach ne vient pas. Pourtant, on avait un Mashiach sous la main, c'était le roi Chizkiyahou, le roi Ézéchias. Et pourquoi il ne devient pas roi? Parce que il a fait une guerre, il s'est attribué le mérite d'avoir gagné la guerre. Et il savait que ce risque était là. Parce que ses ancêtres, les rois, déjà, ils ont demandé à Hachem, je le rappelle pour si quelqu'un ne s'en souvient pas, ils ont demandé à Hachem, ils lui ont dit, le roi David, notre ancêtre, quand il faisait la guerre, il était un très bon stratège, un grand guerrier, dès qu'il avait gagné la guerre, il disait que c'est Hachem qui a gagné la guerre. Nous, on n'est pas capable de le faire. Si on est sur le terrain, si on participe à la guerre, si on mène la guerre, on n'est pas capable de dire que c'est Hachem qui a gagné la guerre. Alors ils vont demander à gagner les guerres de façon à ce qu'ils ne puissent pas s'en attribuer le mérite. Et celui qui, le dernier d'entre eux, celui qui va dire, écoute, moi je veux absolument pas gagner une guerre et ne pas m'en attribuer le mérite. Et donc, Il faut que je gagne une guerre. Pour faire la guerre, il faut que je la gagne. Et il faut que je fasse en sorte que tout le monde reconnaisse que c'est Hachem qui a gagné cette guerre. Alors, il a demandé à Hachem de gagner la guerre pendant son sommeil. J'ai dit, bon, si la guerre se gagne pendant que je dors, je pourrais quand même pas m'attribuer le mérite de la guerre pour gagner la guerre. Il s'est quand même attribué le mérite. Pourquoi? Donc, je vous la fais court. Il s'est dit, mais c'est quand même extraordinaire ce qu'Hachem a fait pour qu'on gagne la guerre alors qu'on dormait. Les ennemis se sont battus tout seuls, quoi. On a ramassé tout le butin parce qu'ils sont partis, ils sont... Ah, ça c'est quand même... Mais quel mérite est-ce que le clan Israël a pour avoir un miracle pareil? Il n'y a pas d'autre mérite qui soit assez puissant pour obtenir un tel résultat que l'étude de la Torah. Ouais, je comprends. Effectivement, on dit qu'au temps du roi Hizkiyahou, même les petits-enfants, ils connaissaient la halakhot de Touma et de Tahara, etc. Tout le monde connaissait la Torah, tout le monde étudiait la Torah. Bon, ça, avec un tel mérite, je comprends bien que, on peut comprendre qu'Hachem ait fait un miracle pour le clan Israël. Il se serait arrêté là, ça allait. Mais il a posé une question supplémentaire. Il s'est posé une question supplémentaire. C'est, mais comment ça se fait que, dans cette génération-là, tout le monde s'est mis à l'étude de la Torah? C'est une question, quand même. Et il s'est répondu. Ah ouais, c'est juste. La Gemara, elle rapporte que le roi Hizkiyahou, que lui, il a planté un sabre, enfin une épée, dans le parvis du Beth Amikdash. Il a dit, tout celui qui étudie pas la Torah, on passera au fil de cette épée-là. C'est moi, alors. C'est moi. Et il n'a pas été capable de chanter. Il aurait dû chanter. C'est-à-dire, chanter, ça veut dire du plus profond, il aurait dû exprimer de la façon la plus riche possible, c'est-à-dire en chant, sa reconnaissance à Hachem pour le miracle qui a eu lieu. Il n'a pas pu. Parce qu'au fond de lui-même, il se pensait, c'est un peu moi quand même, hein. Parce que si tout le monde, le miracle, il s'est fait parce que tout le monde étudiait la Torah. Mais qui a fait ce miracle? C'est moi. C'est moi qui les ai obligés à étudier. C'était fichu. Ça c'est Kochi Veotsem Yadi. Ma force est la puissance de ma main, en quelque sorte. Donc, travailler en tenant compte des lois de la nature, c'est extrêmement difficile. Parce qu'il y a cet écueil de s'en attribuer le mérite. Quand c'est par le mérite de la Torah, tu vois bien que c'est pas toi, quoi. Et le Rambam ajoute, Yesh ba od. Dans cette paracha, il y a encore un autre remez pour les générations. Une allusion pour toutes les générations. Kol asher ira la vinu im Esav achiv. Tout ce qui est arrivé à Yaakov avinu avec son frère Esav va nous arriver à nous, nous arrive en permanence, dit-il, avec les descendants des Sabres. Veraou ilanu lechos bedarko shel tzadik. Et il convient que nous utilisions le même chemin que celui que Yaakov a tracé. Shenazmin atzmenu, c'est-à-dire que nous nous préparions à la confrontation à chaque fois, lishloshet advarim, Sheizmin hu et atzmo, aux trois choses pour lesquelles lui, Yaakov, s'est préparé, les trilas, prières, le doron, les cadeaux, ou la tzala b'derech milchama, et à se, et se sauver dans les voies de la guerre. C'est-à-dire, livroach ou l'enatzel. Fuir et se sauver. Alors, je me rappelle que le Rav Volbé disait, j'ai toujours pensé que ces mots-là de fuir, etc., j'ai toujours pensé que c'était la censure qui avait introduit ça. D'accord, ça veut dire parce que a priori, je pensais que la fuite, c'est le contraire de la guerre. Faire la guerre, c'est affronter. Et la fuite. Alors aujourd'hui, tout le monde connaît l'éloge de la fuite. D'accord. Mais il a dit, jusqu'à ce que j'ai compris que la fuite, c'est une stratégie aussi en guerre, qui est que quand quelqu'un comprend qu'on ne peut pas gagner, alors au lieu de se faire massacrer, d'accord, il y a 10 millions de morts pour rien du tout, il faut s'enfuir, il faut partir. Aujourd'hui, on appelle ça une retraite organisée ou quelque chose comme ça. Et c'est ça que Yaakov a dit. Quand on dit qu'il s'est préparé à la guerre, c'est quoi la préparation de la guerre? Yaakov, il était aussi fort que Esav. Et dans le pasouk, c'est marqué, comme ça que le Mefarshim entend, que dans l'affrontement avec Esav, Yaakov avait autant peur de tuer que d'être tué. Il dit, c'est vrai, je suis aussi fort que lui. Donc si c'est une lutte à mort, il y en a un qui va mourir. Alors ou c'est moi qui l'aurais tué, ou c'est lui qui va me tuer. Mais c'est quoi la préparation à la guerre? C'est pas la préparation à la guerre, ça c'est de savoir. En fait, j'ai pas peur des saves, mais il faut que je prenne des mesures, parce que si jamais c'est lui qui me tue, puisqu'on est des jumeaux, on est aussi forts l'un que l'autre. C'est marqué que Yaakov a partagé ces gens en deux camps. Et il a dit, Vaya amachane anishar lifleta. Et ça, même s'il attaque un des camps, l'autre pourra fuir. C'est-à-dire, ils vont pas, on va pas se laisser abattre. On va fuir, le camp échéant. Donc ça va être très important. On va revenir dans le détail sur qu'est-ce que ça veut dire à Machane Anishar. Le camp qui reste, parce qu'on va regarder la composition du camp, et c'est très étonnant. Alors, si on regarde le début du texte, Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav et Esav Achiv. Donc en vérité, comme je vous ai dit, Yaakov est allé chercher Esav. Et il lui a envoyé des émissaires, des malachim. On a eu une discussion pour savoir est-ce que ce sont des anges vraiment qu'il a envoyés, ou bien est-ce que le mot malachim veut dire des émissaires, des envoyés. Ça, les deux sont possibles. Et il y a une discussion entre les commentateurs pour savoir si effectivement c'était des malachim, des anges, Ou alors, c'était des émissaires, ils envoyaient des gens. Donc, ils sont arrivés chez Esav. Après qu'il leur ait donné les ordres que Esav, que Yaakov a donné à ses émissaires, il leur a dit, Vaitsav Otam, il leur a donné les ordres. Vous allez parler, vous allez arriver devant chez, devant Esav, on va vous amener devant lui, et vous direz, voilà comment il dit aux émissaires, aux marques, voilà ce que vous allez dire. Vous allez dire, vous allez parler. À qui est-ce que vous allez parler? Je vous ordonne de penser, de bien penser que vous êtes en train de penser. Vous parlez pour moi et vous dites ce que l'Adoni, l'Esav, à mon Seigneur, à Esav, et vous allez lui dire, ainsi a parlé ton serviteur Yaakov, Im Lavan Garti Vrecharadata, j'ai vécu avec Lavan, et c'est pour ça que, bon, c'est seulement maintenant que j'arrive. Vahili, Shor, Vachamor, Tson, et j'ai des taureaux, des ânes, du petit bétail, des esclaves, hommes, femmes. Vachalcha la guide la Adoni, et j'envoie dire à mon Seigneur, Limtsochen Benecha. J'envoie ceci pour, comme message, pour trouver grâce à ses yeux. Alors, ils sont allés, ils sont revenus, ils ont dit à Yaakov, comme toujours, quand on envoie des gens, il faut qu'ils fassent leur rapport. Donc, ils viennent au rapport et disent, Banu el achicha, el esav, nous sommes arrivés chez ton frère, chez Esav, et voilà, il vient aussi à ta rencontre, Ve'arba meot ishimo, avec 400 hommes. Et alors, Va'yira Yaakov meot. Yaakov a eu très peur, c'est ça que je vous ai dit, il a peur, tuer ou être tué. Va'yitzerlo, il a été angoissé, et alors, Va'yachatzeta'am asherito, il a partagé le peuple qui était avec lui, Vetatson et le petit bétail, Vetabakar, le gros bétail, et les chameaux en deux camps. Et il a dit, Im Yavo et Sav, et la Machane Achat, si Yaakov attaque un des deux camps, Vekaou, et qu'il le frappe, et il le met KO, quoi, Vaya Machane Anishar Lifrita. L'autre camp s'enfuira. Ils vont pas dire, ben, puisque la moitié d'entre nous a été battue, ben, on se rend. Non, ils s'enfuiront. Et à ce moment-là, il s'est mis à prier. Alors, on va revenir sur Amachane Anishar Lifleta. Avant, donc ça c'est son idée de camp. Alors, on s'attendrait, quand il fait deux camps, que ce soit deux camps équilibrés, quoi. Il a 12 enfants, 12 garçons, il va en mettre 6 d'un côté, 6 de l'autre, et puis la moitié des troupeaux, comme si exactement deux camps de même valeur, si on peut parler comme ça. Mais en réalité, c'est pas du tout comme ça qu'il a fait. Il a partagé donc son camp en deux, mais il y avait deux côtés complètement différents, c'est-à-dire deux très difficiles à comprendre comment était ce partage. Bon, en tout cas, je vais revenir sur sur le début du texte. Il faut que vous sachiez que quand Yaakov a donné cet ordre à ses émissaires et que il a qualifié Esav de Adoni, mon seigneur, il s'est qualifié lui de Avdecha, ton serviteur. Si on regarde, Rachamim disent que il a fait ça pendant 7 fois. 7 fois, il lui parle comme ça. Avec tous les camps et tout. Les Chachamim, dans le Midrash, ils s'arrachent les cheveux. Comment est-ce qu'il a pu faire une chose pareille? Donc d'abord, le premier problème, c'était celui de pourquoi il est allé chercher Esav? Esav, il aurait passé à côté. Le Ramban dit que Vaishlach Yaakov Malachim El Esav, pourquoi il a envoyé des gens à Esav? Le Ramban dit Kvar Tafsu Chachamim Alze. Les Chachamim ont déjà critiqué Yaakov sur ce point-là. Ils ont dit dans le Midrash Marzik Be Ozne Kelev. Tu tires le chien par l'oreille et après tu te plains, il t'attaque. Amarlo Akadosh Baruch Hu Hashem a dit à Yaakov, il a dit les darko yamealech. Lui, il était sur son chemin, il ne s'occupait pas de toi. Vaitam shalech etzlo v'omerlo ko amar avdecha Yaakov. Les Chachamim, ils ont vu là-dessus, c'est Ramban, hein, jusque-là. Les Chachamim ont vu, il y a dans ce Ramban, dans cette démarche de Yaakov, ils ont vu quelque chose de, ils ont porté une accusation très forte contre Yaakov. Chez l'Orient Sarir, Klal, les Kacher et les Sables. Il n'était pas du tout nécessaire d'entrer en contact avec Esav. Il aurait dû le laisser aller son chemin. Alors, si on regarde les choses, on peut se dire, mais on ne comprend pas. Le Ramban, il a dit lui-même au début, je vous ai lu l'introduction, il a dit que de cette rencontre-là, c'est ce qui nous est rapporté dans la paracha ici. Ça vient nous enseigner comment on va se comporter dans le galout avec les goyim, les descendants des sables. Et ben voilà. Il faut bien qu'on nous dise comment on se comporte. Et donc, on a. Pourquoi il est allé là-bas? Pourquoi il a fait ça? Pour nous enseigner comment se comporter. Il faut comprendre, comme on l'a dit, le galout Mitzrayim. Le galout en Égypte. Il a eu lieu, Israël, parce qu'Abraham a mobilisé, il a sorti des élèves, ses élèves qui étaient en train d'étudier la Torah, il les a sortis pour aller faire la guerre. Dans la guerre contre les quatre rois. Et là, on dit que ça, c'est la raison pour laquelle il est puni, le galout, le clan d'Israël. Les descendants d'Abraham, ils sont punis. Pourquoi? Parce qu'on a fait la guerre contre les quatre rois. Et que pour ça, il a pris ben, les gens qu'il avait. Qu'est-ce qu'il pouvait faire, Abraham? Est-ce que il aurait dû aller faire la guerre tout seul? Ça, ce genre d'accusation, enseignait Rav Volbe, il disait, ce genre d'accusation-là, c'est en fait l'accusation de ce qu'on appelle Amidat Hadin. C'est-à-dire qu'en fait, Avraham Avinu aurait dû placer le clan Israël à un plus haut niveau. à un niveau où on s'occupe pas du tout de la nature. Nous, on comprend pas du tout ça. Mais contre Abraham, c'est un argument. Vous voyez, Abraham, Vino, il a fait tout ce qu'il pouvait pour que ça soit non naturel. Quand on fait la guerre, on est souvent amené à utiliser les méthodes de l'ennemi. Et souvent, c'est dégradant. Abraham Avinu, il s'est refusé à utiliser les armes. Vous vous souvenez, le Midrash dit qu'il a renvoyé sur les peuples contre lesquels il a fait la guerre, leur envoyé de la poussière et de la paille. Eux, sur la tête, ils ont pris des armes, on dirait aujourd'hui, ils ont pris des bombes. Mais lui, il a envoyé de la poussière et de la paille, et quand eux envoyaient des bombes, lui, il a reçu de la poussière et de la paille. Donc lui, dans sa guerre, il a fait très attention à Abraham Avinu de ne pas utiliser les armes de l'ennemi, en fait. Ça, c'est dégradant. Mais la Midat Hadin, elle dit, c'est pas suffisant. Tu aurais dû placer le clan Israël à un niveau encore plus haut. C'est-à-dire, peut-être, effectivement, tu peux aller tout seul faire la guerre. Tu n'es pas obligé de les prendre avec. Pas tout seul. Il y a d'ailleurs un Midrash qui dit qu'en vérité, il n'a pas pris du tout les gens. Mais que les 318 guerriers qu'il avait avec lui, ses élèves en fait, 318 c'est la gematria d'Eliezer. Qu'Abraham il est allé faire la guerre avec Eliezer, c'est tout. Donc quelque part, il a pris aussi Eliezer. Alors si on applique cette accusation-là, y compris dans la situation où il est allé avec Eliezer tout court, tout seul. Enfin, il n'aurait pas dû bouger, mais il y avait Lot. Qu'est-ce qu'il aurait dû se contenter de prier ou Hachem va s'occuper de Lot. Ici aussi, Yaakov Avinu a pensé qu'il est obligé d'utiliser la voie de la nature. La nature, que quand on veut apaiser quelqu'un, ben on essaie de l'amadouer avec des cadeaux. C'est comme ça qu'on a procédé, hein, dans toute notre histoire. Et la Midat Hadin, elle dit que non. Il aurait dû, là aussi, mettre le clan Israël à un niveau plus élevé. Sans s'occuper du tout des saves. Et ça, il va sur son chemin et t'occupe pas de ça. Et Chazal le disent dans la Gemara, dans Echin, ils disent, il m'allait ba, kadosh baruch hu im Avraham, Yitzhak et Yaakov, bedin, si effectivement, Hachem avait tenu compte de la Midat Hadin pour juger Avraham, Yitzhak et Yaakov, en yucholim la'amod mipnei tochacha. Les avots n'auraient pas tenu le coup face aux reproches, face aux remontrances que la Midat Hadin leur faisait, quoi. La Midat Hadin, elle vient avec des arguments tels, y compris contre les avots, que si c'est pas Hachem qui les protège, on peut pas répondre. Alors à quoi ça sert? Ça veut dire que c'est sûr que nous, on a des leçons à entendre dans cette affaire-là. Alors, on va encore regarder ce que dit le Ramban, encore un point. Ve'al da'ati, d'après moi, dit Ramban, gamzei irmoz, qui en achnu, itralnu, Nefilatenu beyad Edom, que c'est nous qui avons commencé à tomber devant Edom. Ki malche beit sheni ba'u bebrit im haromaim. Les rois du nom du deuxième temple, ils ont fait alliance avec les Romains. Ou même chez Baou de Roma. Certains d'entre les rois sont allés eux-mêmes à Rome. Et ça, c'est la raison pour laquelle ils sont tombés aux mains des Romains. Ça fait partie de ce que le Ramban entend ici, des allusions qui concernent les actes des Avot, qui sont la racine, nos racines, qui sont les racines de tout ce qui va toucher le clan d'Israël dans ses relations avec les différents peuples. C'est parce que Yaakov a créé un lien avec Esav. C'est la raison pour laquelle Urkenos, qui a été éduqué, qui a été éduqué à Rome, avec Unclès d'ailleurs, avec le neveu de l'empereur, Nikshar ima Romaim keneged Aristobulus, Achiv. Vous savez, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une guerre intestine, une guerre entre les deux frères, Hyrcan et Aristobulus, je sais pas comment on dit. À la fin, et il y en a un, Hyrcan, qui avait été éduqué à Rome, il a appelé les Romains à la rescousse dans sa guerre. Donc les Romains sont venus, et puis bon, ça a dégénéré jusqu'à la destruction du Beth Amikdash. Donc, ici il dit, c'est cette idée que il n'y a pas une force d'Egoïm qui, en tant que telle, a vaincu les Bnei Israël. C'est les Bnei Israël qui ont fait leur propre malheur, en fait. C'est ça que le Ramban est en train de dire. Les Rami pensent comme ça aussi. En réalité, le peuple d'Hachem, en réalité, il ne peut pas subir de mal autre que par lui-même, en fait. Si vous voulez, c'est un peu la même chose que ce qu'on dit sur l'impossibilité de détruire la résidence d'Hachem. Bon, ce que Hazal disent, on a déjà parlé souvent de ça, c'est Nevejahraim qui l'explique. Il est impensable que Nabucodonosor ou Titus aient pu détruire la résidence d'Hachem. C'est un non-sens. Un homme ne peut pas, des hommes, des armées ne peuvent pas détruire la résidence d'Hachem. Ou alors, résidence d'Hachem ne peut rien dire. Quand Abraham Avinu a voulu montrer à son père que ses idoles c'était n'importe quoi, quand vous vous souvenez dans l'histoire, vous connaissez l'histoire, il a cassé les idoles, il a laissé la plus grande et lui a mis un bâton dans les mains. Et quand son père est venu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oh, bah, c'est la plus grande des idoles a tué toutes les autres. Alors, son père lui a dit, ça va pas dans ta tête? Mais il est en train de me dire. Ces idoles, elles n'ont aucun pouvoir. Donc, si maintenant on dit qu'un homme, un goy, peut détruire la résidence d'Hachem, si Hachem ne peut pas se défendre tout seul, qu'est-ce que ça veut dire? Mais la vérité, c'est, comme vous le savez bien, c'est que le mot Yerushalayim, c'est la terminaison Haïm, elle fait référence à un double, un doublet. Il y a un double, il y a deux Yerushalayim. Yerushalayim d'en bas et Yerushalayim d'en haut. Et de même, il y a deux Bate Mikdash, Bate Mikdash d'en bas et Bate Mikdash d'en haut. Mais Hachem a décidé que, comme toujours, c'est ce qui est en haut qui est l'âme, donc la source d'énergie de ce qui est en bas. Donc, le Bate Mikdash d'en bas, il est nourri, il a son énergie du Bet Hamikdash d'en haut. La Yerushalayim d'en bas, elle a son énergie de Yerushalayim d'en haut. Mais d'où vient l'énergie de la Yerushalayim et du Bet Hamikdash d'en haut? Elle vient de ce que les Bnei Israël font, de l'énergie qui leur est donnée. C'est ça qui renforce ou affaiblit le Bet Hamikdash d'en haut. Donc, quelque part, si vous voulez, c'est comme si ce que font les Bnei Israël, si c'est pas bien, ils se font du mal à eux. Ça transite par le Bet Hamikdash d'en haut, mais ce n'est qu'un transit. C'est comme ça qu'Hachem a décidé que les choses seraient. C'est ça l'idée qu'il a décidé que nous serions les associés d'Hachem. C'est toujours la même idée, la même, ce que je vous ai déjà raconté sur les Moadim, que c'est Hachem qui nous donne rendez-vous, mais c'est nous qui disons quand est rendez-vous. Hachem dit ce sera le 15, mais c'est nous qui disons quand sera le 15. Et ça, c'est toujours le même système. C'est en fait Hachem qui donne, bien sûr, on peut pas donner. Yaakov Avinu, il a dit la semaine dernière, il a dit à Hachem, je te donnerai maaser de tout ce que tu me donneras. Il va pas lui dire, je te donnerai maaser de tout ce que j'ai. Comme tu l'as eu. Évidemment. C'est toi qui me le donnes. Mais je te redonne maaser de ce que je t'ai donné, de ce que tu m'as donné. Et donc, c'est ça le système. Hachem nous fait jouer un rôle comme si nous donnions des choses qui sont à nous. Mais, bon, c'est à nous. Il nous l'a donné. Comme on dit, Akadosh Baruch Hu dit, nous on dit dans le Hallel, Aretz Natan Livnei Adam. La terre, Hachem l'a donnée aux hommes. Mais nous disons, dans d'autres, avec le Tilim de dimanche, si vous voulez, du lundi, du premier jour de la semaine, pardon, du dimanche, Hachem Aretz Umloa. La terre, nous disons, la terre est à Hachem, elle est tout ce qu'elle contient. Donc Hachem nous la donne, mais nous reconnaissons qu'en fait tout est vraiment à Hachem. Donc ici aussi, le Bet Hamikdash, il est détruit. Il peut pas être détruit comme ça. Mais par contre, quand les Bnei Israël se conduisent mal, dans le système qu'Hachem a mis en place, ça affaiblit le Bet Hamikdash d'en haut, et finalement, il donne plus rien au Bet Hamikdash d'en bas. Et le Bet Hamikdash devient une coquille vide. Alors, bien sûr, le Titus ou Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar peuvent détruire la coquille vide, bien sûr. Eux, ils croient qu'ils ont détruit le Bet Hamikdash. Ce qu'ils ont détruit, c'est une coquille vide parce que c'est nous qui avons détruit le Bet Hamikdash. C'est nous. C'est ce que les Chachamim disent ici. Ce que le Rabban rapporte, mais c'est, les Chachamim pensent comme ça aussi. C'est nous. Si les Romains sont venus, ils ont détruit le Bet Hamikdash. Comment? Mais là, c'est historiquement très clair. On a dû penser, ça dépend de nos actions, etc. Là, c'est très clair. Quand il est allé à Rome, il a dit, venez m'aider. Il a dit à ses copains, venez m'aider contre mon frère. Ils sont venus. Et bon, ils ont détruit le Bet Hamikdash de fil en aiguille. Le Tanchuma, il dit, le Midrash Tanchuma, c'est un des grands Midrashim. Quand Yaakov dit à Esav, Vahili, j'ai au verset Vav, Vahili Shor, Vachamor, Tson, Vevet, Shifra, le Tanchuma dit, il parle des brachot. D'abord que Yaakov a donné à son fils. Et là-bas, on voit que Arié, le lion, c'est Yehuda. Et quand il dit ici, Babakor, Babakar, Bakar c'est le gros bétail, c'est Yosef. Et dans la prophétie du Navi Yeshayahu, c'est marqué que le lion, lui aussi, comme le taureau, achal teven, il mangera aussi du foin ou de la paille. Et on dit, celui qui mange de la paille, c'est Esav. Dans la Gemara, c'est marqué, Ein zaro shel Esav nofel ela beyad zara shel Rachel. Les descendants de Esav ne tomberont que sous les descendants de Rachel. Et l'explication, dit le Sheikh Chochma, Mishum de Esav ba Mikoar kibudav. Le problème, c'est que Esav, il a un mérite énorme. Il a servi son père. Comme personne, dit la Gemara, personne n'a jamais donné de kavod à son père, comme Esav en a donné au sien. Esav, quand il servait son père, il mettait des vêtements royaux, littéralement. Le fameux vêtement que Rivka a mis sur Yaakov, qui était le vêtement que Esav avait piqué à Nimrod. Quand il a tué Nimrod et il a pris ce vêtement, mais ce vêtement Nimrod l'avait pris, c'est le vêtement qu'Hachem a fait à Adam Arishon. Donc, il a un sroute énorme. Et vous voyez bien comme il lui parle. Yakou, ma vie, que mon père se lève, etc. C'était royal, comme le traitement d'Yitzhak par Esav. Kavod, pas possible. Ce que les descendants de Yaakov ont, les descendants de Rachel, que n'ont pas les autres, c'est qu'eux, ils n'ont pas fait souffrir Yaakov. Parce que les descendants de Rachel, c'est Yosef et Binyamin, et donc ni l'un ni l'autre n'ont fait souffrir Yaakov en lui racontant les salades que Yosef était mort, etc. Tous les autres ont fait souffrir Yaakov. Donc tous les autres, si vous voulez, contre Esav, ils font pas le poids. Esav, il a le kibboudavim pour son père, et les autres, ils ont fait souffrir leur père. Comment ils peuvent lutter contre Esav? Le seul qui peut lutter contre Esav, c'est Yosef et Binyamin, en fait. Les descendants de Rachel. Ici, c'est marqué, dans la Gemara, Kol amvarech et abotzea na'at Hashem. C'est-à-dire, celui qui fait l'éloge de celui qui porte ici, qui propose une pshara, c'est-à-dire qui propose de résoudre un problème qu'on pourrait résoudre en appliquant la loi, mais qui propose un compromis, la Gemara elle dit, c'est en quelque sorte quasiment un blasphème pour Hachem. Il y a la loi d'Hachem et toi tu proposes autre chose. Et alors le Midrash dit que ce verset, qui, cet enseignement qui dit Kolam Amvarech Tabotsea, que celui qui fait l'éloge de celui qui propose un compromis, c'est Yehuda. Et le verset, et le texte dit donc Naatz Hashem. C'est en fait un blasphème contre Hashem. Chez Yehuda, Garam Tsar Leaviv, parce que Yehuda est celui qui a causé la souffrance de son père, avec la vente de Yosef. Et c'est pour ça que c'est marqué, après cela, c'est marqué Vayered Yehuda, donc Yehuda est descendu, Me'echav, de ses frères. Donc, vous connaissez l'histoire? L'histoire, c'est Yehuda, il a rencontré, en chemin, il a rencontré une prostituée, vous le connaissez bien. C'était Tamar, qui s'était déguisée en prostituée, et dont Yehuda va avoir deux fils. Ils sont les ancêtres du Mashiach. Mais pourquoi il était, comment ça se fait qu'il l'a rencontré? Parce que Yehuda, il avait perdu sa femme d'abord. Et ensuite, il venait de se faire, il venait de se faire dégommer par ses frères. Yehuda, c'était le roi. C'est le roi. La royauté, c'est la tribu de Yehuda. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez bien, le Midrash raconte, enfin, même la Gemara, elle raconte, en fait, que ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont jugé Yosef, quand les frères ont jugé Yosef, et qu'ils l'ont condamné à mort, Yehuda a dit, Ma betsa qui n'a ogitachinu. Qu'est-ce qu'on a à gagner à tuer notre frère? On va le vendre comme esclave. Et on dira à notre père qu'il a été tué. Comme ça, il nous cassera plus les pieds. On l'enlève, il sera plus parmi nous. Il va être vendu comme esclave en Égypte. Donc, on l'aura pas tué, mais pour nous, il est comme mort. Comme ça, nous, on n'aura tué personne. Donc, il a proposé un compromis. Au lieu de le tuer comme la loi qu'ils avaient appliquée, la décision qu'ils ont prise, il avait jugé comme Moret de Malchut, comme quand Yosef se révoltait contre la royauté d'Yehuda. Moret de Malchut, c'est Chayav Mita. Donc, voilà, ils l'ont jugé. Et il a proposé une pshara. Alors, pourquoi est-ce que on amène ce texte-là? Parce qu'il a dit, ma betsa, c'est bet sadik ain. Et le texte que je vous ai cité là, qui parle kolam varech et ta botsea, c'est bet sadik ain aussi. Mais botsea là-bas, ça veut dire pshara. Et ici, ma betsa, c'est qu'est-ce qu'on va gagner? Donc, l'idée de vendre Yosef au lieu de le tuer, d'une certaine manière, c'est une pshara, c'est un compromis entre le tuer ou le libérer complètement. Alors, bien que, grâce à ce compromis-là, Yosef n'a pas été tué, d'accord. Mais malgré ça, ses frères lui en ont voulu. Quand ils ont rendu compte de la façon dont Yaakov a été affecté quand on lui a dit que Yosef avait été tué, et qu'ensuite il n'arrivait pas à l'avaler, quoi, il n'arrivait pas à retrouver son souffle, etc., c'est-à-dire son inspiration et tout, ils ont dit à Yehuda, écoute, finalement, c'est de ta faute. Quand tu nous as proposé de ne pas le tuer et le vendre, on t'a écouté. Si tu nous avais dit, ok, on lui a donné une leçon, maintenant il est quitte pour la peur, on va le renvoyer chez son père, on t'aurait écouté aussi. Donc finalement, c'est toi, c'est de ta faute. Tout ce qui arrive, c'est de ta faute. Et donc ils l'ont dégommé. Ça veut dire qu'il n'était plus roi. Et donc on a l'impression que en chemin là-bas, il apparaît quasiment comme quelqu'un qui est déprimé littéralement. Non déprimé. Et dans cette dépression là, quand je beaucoup lui fais rencontrer Tamar sous les formes, etc. Bon, on va pas parler de ça pour l'instant. Mais le Navi Yeshayahu, dans la fameuse vision de l'Ati de Lavo, où il dit que Yehuda, c'est-à-dire le lion, dans le futur, la faute de Yehuda, elle va être réparée. D'accord ? Dans le futur, Yehuda aura fait Tshuva et tout. Alors, on va accomplir le verset du Navi qui dit « Ve'arié kabakar yochal teven » Le lion, comme le taureau, disons ici, il mangera de la paille, du végétal. C'est-à-dire que Yehuda, lui aussi, il pourra manger ça. Donc, c'est ça que veut dire le verset, d'accord? C'est-à-dire, il faut lire cette histoire de Vaïli Shor Vechamor, etc. J'avais Shor. Shor, c'est j'avais de quoi, il lui dit, en fait. J'ai de quoi te battre. Ah, et finalement, le Mashiach, c'est le Mashiach Ben Yehuda, descendant d'Yehuda. Parce que, à la fin des temps, Yehuda, il est quasiment comme un taureau. C'est-à-dire, comme dit le Navi Yeshayahu, il va manger du végétal. Il sera plus carnivore. Le lion de la fin de l'histoire. Donc, Yehuda sera capable. Parce qu'il deviendra Shor à son tour, quasiment. Ka-Shor. Il y a le Shor, Yosef, et le Shor, le comme Yosef. Et donc, on sait qu'en vérité, ça se passera en deux temps. Il y a d'abord le Mashiach ben Yosef, d'après ça, et puis ensuite le Mashiach ben Yehuda, enfin ben David, mais ça veut dire ben Yehuda. Et c'est à eux deux qu'ils arriveront à bout d'Esav, en fait. Ils arriveront au temps messianique, quoi. On en finira avec Esav. Et donc, dans la prière, je vous ai dit que Yaakov s'est préparé, il a partagé son camp en deux. Alors, regardez quand même Rashi. Rashi dit sur le pasuk Tet, Amachane achat vi kaou. Il y aura, si Esav vient vers le premier camp et qu'il le détruit, le frappe, il le détruit, bah, y a Amachane Anishar Lifleta. Alors, le camp qui va rester, en réalité, le camp qui va survivre, si on peut parler comme ça, ce camp-là, il servira à Lifleta, servira pour le sauvetage en réalité. Alors ça c'est un point très important. Alors d'abord je vais vous dire Rashi. Je vais voir avec vous le Rashi donc. Rachid dit, le mot hébreu machané, c'est un mot qui est parfois masculin et parfois féminin. Je vous donne des exemples. Im tachane alai machane, are lashon nekeva. Là, il est féminin. Amachane azé, c'est lashon masculin. Zé, c'est masculin. Donc, bon. Alors, Rashi, tout à coup, il est parti dans l'explication. Il dit en hébreu, il y a d'autres mots qui peuvent appartenir aux deux genres à la fois, comme le soleil. Des fois, il est féminin, des fois, il est masculin. Le mot, par exemple, ruach, il est aussi des fois féminin, des fois masculin. Et le mot esh aussi. Bon, en passant, il a traité ce... Il a donné un petit cours de des mots qui sont à la fois féminins et masculins. Ensuite, il dit, le camp restant sera sauvé. C'est-à-dire, malgré Esav. Pourquoi? Qui dit qu'il n'arrivera pas à battre deux camps? Parce que je me battrai avec lui. Donc, Yaakov s'est, Rachid dit, s'est préparé à, de trois façons à la rencontre avec Esav. Des cadeaux, la prière et la préparation à la guerre, au combat. Le cadeau, c'est, il a présenté tout ce qu'il lui a envoyé. La prière, c'est cette prière qui commence, c'est l'okim de mon père Abraham, etc. Et la préparation au combat, c'est le camp restant sera sauvé. Donc, d'où est-ce qu'il sait qu'il sera sauvé? Parce que, dit Yaakov, je me battrai à mort avec lui. Donc, l'autre camp, il aura le temps de s'enfuir. Donc, c'est comme ça qu'il entend les choses. Donc, quelque part, cette idée que il y a une richesse dans le clan d'Israël, dans le fait de pouvoir, d'avoir deux camps. C'est marqué que le clan d'Israël, il est comparé à la colombe. On dit que la colombe, quand elle est fatiguée, elle repose, elle ne bat que d'une seule aile, elle repose l'autre. Et Chazal disent, c'est ça le modèle pour le clan d'Israël. Quand le clan d'Israël, du fait qu'on est dispersé, alors quand un camp est attaqué, l'autre camp peut survivre. Effectivement, ce qui s'est passé, quoi. On a détruit le judaïsme d'Europe. C'est vrai, il est resté quand même celui d'Amérique. Et il est resté encore un petit groupe en Israël, mais essentiellement, numériquement, c'est resté le Bnei Israël en Amérique et en Angleterre, disons.
Et les pires. Et les pires.
Pardon?
Et c'est Farad.
Oui, à part ça, il y a tout le monde Farad qui n'a pas été attaqué. Enfin, pas complètement. Mais bon, ils ont été attaqués aussi en Afrique du Nord. Ils étaient tout près des Rats Israël. Une fameuse histoire avec Rommel. Ensuite, Yaakov va dire quelque chose de très important dans la prière. Il dit Eloke avi Abraham, Eloke avi Yitzchak, Hashem haomer elai shuv le'artzecha ulmolatecha be'etiva imach. Le Dieu d'Abraham, Yitzchak, celui qui m'a dit de retourner dans mon pays, ma patrie, et que je te ferai du bien. Alors, Yaakov dit à ce moment-là, il dit, Kotonti mikol ha-chassadim ou mikol ha-emet asher asita et avdecha ki v'makli avarti et ha-yarden hazeh ve'ata ha-iti lishne machanot. Il dit, je suis rendu petit par tous les chassadim, par toutes les bontés, tous les témoignages de vérité que tu as fait pour ton serviteur, par la Hachem, parce que à l'aller, j'ai franchi le Jourdain avec mon bâton, en tout et pour tout. Et maintenant, je reviens et j'ai deux camps. Bon, tu m'as béni, tu m'as donné tellement de choses, mais le mot « kotonti mikola chassadim » c'est remarquable, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire, « kotonti mikola chassadim » Rashi dit « nitmatu s'chuyotai al yedei chassadim ve'aemet shasita imi » Mes mérites, ils sont diminués. Parce que tu m'as fait tellement de bonté que très certainement c'est sur le compte de ce que j'ai fait de bien. Donc il ne doit plus me rester grand-chose de bien. Donc je suis devenu tout petit à cause de ça. Tu m'écrases sous tes bontés. Et vous vous souvenez, ceci c'est le fameux verset que la Gemara rapporte. Dans la Gemara, elle parle de la notion d'orgueil, de la gava. Et la Gemara, elle dit que l'orgueil c'est la pire des choses, mais elle dit que néanmoins, il faut qu'il en reste un huitième de huitième. Alors bien sûr, je pense que la Gemara pouvait dire un 64e, mais elle a voulu dire un 8e de 8e. Et le Gaon explique pourquoi. Le Gaon dit, la gava dont l'homme a besoin pour survivre, pour vivre, c'est cette quantité-là. C'est celle dont il est parlé dans le 8e verset de la 8e paracha. Le 8e verset de cette 8e paracha, c'est notre paracha et c'est ce verset-là. Ce verset-là, il parle de la gava, de l'orgueil que l'homme doit avoir, qu'il ne peut pas tomber en dessous, parce que sinon il est katonti. Je suis trop petit, tu m'écrases. Si tu m'écrases, je ne peux pas me tenir devant toi. Si je deviens un mollusque, j'ai plus aucune gava, rien du tout. Alors, la gava, c'est très risqué, c'est très dangereux, mais il en faut un peu pour pouvoir se tenir debout. Le peu en question, c'est justement ce à quoi fait allusion Yaakov Avinu ici. Il faut quand même pas que tu m'en donnes trop. Et il va demander, Atsilenina miadachi, sauve-moi de la main de mon frère, miad esav, de la main d'Esav. C'est-à-dire, pourquoi il dit miad séparément, miad achi, miad esav, il aurait pu dire, même s'il voulait dire comme ça, miad esav achi ou achi esav. Non, pourquoi il y a deux, miad achi, miad esav, de la main de mon frère, de la main d'Esav. Parce qu'Esav se présente pour Yaakov sous deux formes qui sont toutes les deux aussi dangereuses l'une que l'autre. Ce qui se présente comme mon frère, c'est-à-dire qu'en fait il veut avoir avec moi des relations de frère, c'est un danger, parce qu'il est un rachat et je risque d'être influencé par lui. Et donc, il faut que tu me sauves de ça. Et aussi me sauver des sables, qui est vraiment en tant que rachat, directement, en tant qu'ennemi. Qui yare anochi oto. J'ai peur de lui. Peignavovi kaniem albanim. J'ai peur de lui parce que il a à craindre qu'il vienne et qu'il me frappe, si on veut parler comme ça. M. Albanim. La mère sur les enfants, avec les enfants. Ça veut dire, bon, Donc il demande à Hachem, sauve-moi d'Esav, quelle que soit la proposition qu'il me fait, quelle que soit la façon dont il se présente à moi, que ce soit mon ennemi ou mon frère. Et effectivement, Esav va se présenter à lui comme son frère. Après leur rencontre, il va lui proposer de faire un bout de chemin ensemble. Et Yaakov va se défiler. Yaakov va lui dire, non, je peux pas, à cause des enfants, ça marche lent, les troupeaux, tu sais, c'est lent, et toi t'as des guerriers, vous marchez beaucoup trop tôt, beaucoup trop vite. Alors il lui a dit, tu veux que je te présente mon général? Il dit, non, ça va, je te crois sur parole, quoi, quelque part. Je vais te montrer l'armée, on va défiler. Non, ça va, c'est pas nécessaire, merci. Je suis très content d'avoir trouvé grâce à tes yeux, etc. De nouveau, Esav, et Yaakov, il s'écrase devant Esav, comme c'est pas possible. Et à la proposition de faire un bout de chemin avec lui, il lui a proposé, il a dit non, on va se rencontrer à Seir. « Adacher avo el Adoni Seira, je viendrai chez toi à Seir. » Il n'y est jamais allé. Il ne voulait pas prier avec lui. Alors il arrive à Shrem. Shrem, c'est, bon, aujourd'hui c'est Naplouse. Shrem, bon, c'est une mauvaise ville pour... C'est la ville que les fils de Yaakov ont massacré à la suite de l'épisode de Dina. C'est là-bas qu'il y a le tombeau de Yosef que Chirac avait confondu avec Joseph. Alors il est arrivé là-bas, Shalem. Et il leur a fait quelque chose. C'est-à-dire, il a campé en dehors de Shrem. Mais il leur a donné la notion de, enfin, il a inventé là-bas la notion de Troum Shabbat. Parce qu'il a regardé que, depuis là où il était, il avait Alpaïm Ama, il avait 2000 Amot, jusque dans Shrem. Donc, là-bas, il leur a aussi expliqué, en quelque sorte, donné des lois d'urbanisme aux gens de Shrem. C'est assez étonnant. En fait. Rashi dit, il est arrivé Ir Shrem, la ville de Shrem, comme le Ir Shrem, comme il est arrivé à la ville de Shrem. J'ai dit d'autres endroits où effectivement d'autres endroits où on voit aussi l'Ahmed n'y est pas et il faut le mettre. Rashi fait quelques leçons de grammaire ici. Le Netziv, il explique que pourquoi ça, c'est marqué Ir Shrem. Il dit parce que dans cette paracha, on va parler, je vous ai dit, c'est Shrem, c'est la ville où l'épisode de Dina va se dérouler. C'est ce qui vient juste après. Et donc, le Shrem, c'est le nom d'un personnage, c'est pas le nom d'une ville. C'est pour ça que la Torah, c'est la ville de Shrem. Et le Netziv dit, on peut aussi, et donc, comme on aurait pu se tromper si on avait dit Shrem, il aurait pu dire qu'il est arrivé à Shrem. Mais Ir Shrem, il faut dire. Et c'est aussi parce que Abraham Avinu, il est aussi arrivé à un moment donné jusqu'à Shrem, dans la guerre. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas du tout de ville à cet endroit-là. Ça, chez Yaakov, on dit Ir Shrem. Donc c'est probablement là-dessus que sont construits les Midrashim qui parle de toutes les règles d'urbanisme, en quelque sorte. Si on peut parler, c'est un peu, bon, si on peut s'exprimer comme ça, qu'il leur a donné aux gens de Shrem. Encore une chose, juste avant qu'on s'arrête. Le Ramban, il dit que quand le Kohen Gadol interrogeait les Urim Betumim, quand il interrogeait avec le pectoral, il interrogeait Hachem, avec, vous savez, les pierres précieuses, là, qui rayonnaient, qui s'allumaient, si on peut parler comme ça. Alors, il y avait des lettres qui étaient lumineuses et qui étaient les lettres avec lesquelles il fallait former le mot qui était la réponse d'Hachem à la question qu'ils avaient posée. C'est pour ça que ça s'allume, c'est pour ça que ça s'appelle Orim. Enfin, Orim. Or, c'est un feu. Mais il y avait encore une possibilité de lire les lettres de plusieurs manières. Il fallait les assembler, ces lettres, mais il y avait plusieurs possibilités. Donc pour pouvoir vraiment savoir quelle était la réponse, il fallait utiliser le côté tumim qu'il y avait. La tmimout, en quelque sorte. Il fallait utiliser la tmimout du Kohen Gadol. À ce moment-là, lui, il savait comment il faut lire. Cette tmimout, c'est donc une puissance qui permet de comprendre les choses par soi-même, en fait. De la même manière que par rapport au mal, la tmimout, c'est une force que quelqu'un a en soi pour savoir comment, ce qu'il faut repousser. Pour le bien, c'est comme ça aussi. La tmimout, c'est une force pour savoir comment lire. Comment lire chez Yaakov, la tmimout de Yaakov, Ishtam, Tamim, c'était toujours sa capacité d'aller jusqu'au bout des choses, compréhension complète, c'est-à-dire comment est-ce qu'il faut se conduire avec Esav, ne rien prendre de lui. Et de cette manière, il est arrivé Shalem Begufo Obemamono dans la ville de Shrem. Pourquoi on met l'accent sur le fait que Yaakov est arrivé, ici il est arrivé Shalem, c'est grâce à sa tmimout. Grâce à son entièreté en quelque sorte. Parce que Chazal disent que la perfection à laquelle Yaakov est arrivé Shalem, c'est une forme de perfection. En vérité, c'est, ça vient de sa tmimut, ishtam. Tmimut, ça a à voir avec la shlemut, avec la perfection. Quand la tmimut s'exprime, en fait, elle donne la shlemut. Et c'est grâce au fait que Yaakov n'a pas oublié son étude quand il était chez Lavan, qu'il a pu arriver à la Shlemout. Il est arrivé à la Shlemout dans les Midot. C'est comme ça qu'il l'a appelé Ishtam. Mais après qu'il a passé chez Lavan, enfin il a passé les épreuves, en quelque sorte, Lavan et Esav, alors il est arrivé à la Shlemout. Il était un Ishtam. Il était toujours... Il avait à voir avec la Mida de Shlemout, mais il est vraiment devenu Shalem seulement après les deux épreuves de Lavan et Esav. Je vous rappelle que sa mère lui avait dit qu'il a trois épreuves, Yaakov, qu'il a Lavan, Esav, et encore Yosef. Yosef est encore à venir. Donc on va s'arrêter là.